Eh bien, il est 18h30, bien tassé, nous allons bientôt commencer. Encore 30 secondes, une minute, et nous nous trouvons ensemble. Il est 18h32. Le Facebook Live Exilium va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous, amis lecteurs et amis lectrices. Alors, je suis Frédéric Bellec, auteur de la saga Exilium. Certains me connaissent. Et puis, pour ceux avec qui je fais connaissance pour la première fois, eh bien, je vous salue chaleureusement pour ce Facebook Live. Alors, je vous remercie tous et toutes d'avoir répondu présent pour notre premier rendez-vous littéraire sur Facebook. Un rendez-vous quotidien que j'ai mis en place donc à partir d'aujourd'hui et durant lequel je vous ferai la lecture du premier tome de mon roman Exilium. Un petit bout chaque soir pour une demi-heure environ, grand maximum, mais la durée sera modulable en fonction, bien entendu, de vos retours. Alors c'est aussi une première technique pour moi, car je n'ai pas spécialement l'habitude de me montrer en vidéo. Et à ce titre, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis particulièrement stressé. Donc, pardonnez les petites imperfections de ce premier live. Alors déjà, vous aurez remarqué qu'au niveau de la caméra, il y a en quelque sorte une contre-plongée avec un accès direct sur mon crâne chevelu. Alors, c'est un peu normal pour l'instant parce que j'ai un énorme écran 40 pouces devant moi et je n'ai pu poser la caméra qu'au-dessus. Également, en ce qui concerne le micro, il y aura un petit peu plus tard un micro de meilleure qualité pour une voix davantage claire. Mais de toute façon, ça n'a aucune importance tout cela. Ma tête est secondaire. Alors pourquoi cette session lecture? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que durant cette période de confinement, qui pour certains commence à beaucoup peser, je me suis dit que proposer, juste avant l'apéro, une petite détente littéraire pourrait faire plaisir à ceux qui apprécient tout autant écouter les livres que les lire, et qui bien entendu adorent voyager au travers du genre fantastique. D'ailleurs, toutes les vidéos seront disponibles en replay pour que vous ne perdiez pas le fil de l'histoire si jamais un soir vous deviez manquer un rendez-vous. Et puis la deuxième raison, c'est que ce Facebook Live est un moyen sympathique que j'ai trouvé pour échanger en direct avec les lecteurs et les lectrices. Et d'ailleurs, après chacune des lectures, donc maintenant d'ici une demi-heure à peu près, je prendrai connaissance de tous les messages qui auront été déposés sur Facebook, et j'y répondrai avant de prendre congé de vous pour le lendemain. Et on fera ça comme ça tous les soirs, si vous êtes d'accord. Alors je vais tout d'abord vous parler du contexte dans lequel j'ai écrit Exilium, pour que vous compreniez pourquoi le narrateur, qui est aussi un des personnages principaux, porte le même nom que le mien. Alors il faut savoir qu'Exilium est sorti en 2015, et à cette époque je travaillais encore comme assistant d'éducation au lycée Jean Moulin, à Saint-Amand-Montrond, dans le sud du Cher. Et je surveillais entre autres l'internat garçon. Mais l'internat des filles avait cette particularité qu'il avait la réputation d'être hanté. en raison des bruits bizarres en fait qui traversaient les couloirs. Et comme, enfin, du moins, les filles qui étaient à l'internat disaient qu'elles entendaient des bruits, mais c'était un sujet de discussion assez récurrent, tous les ans. Et comme la région du Berry a parfois du mal à se débarrasser de cette étiquette de pays des sorciers, eh bien les internes filles n'étaient pas toutes tranquilles. Et donc ça, c'était tous les ans, avec des élèves différentes. Alors quand j'ai remarqué justement, comme je vous le disais, que ce sujet de discussion était assez récurrent, eh bien j'ai imaginé une histoire sur l'origine des bruits de couloir, afin d'amuser les élèves, tout simplement. Exilium est né comme ça. Mais comme j'étais censé apporter des explications aux élèves, il fallait que mon roman prenne l'aspect d'une enquête. Une enquête interne au lycée. Une enquête qui était réalisée par le surveillant d'internat. Donc en l'occurrence, moi dans la vraie vie. Si bien que j'ai dû endosser le rôle de personnage principal afin que les élèves identifient immédiatement qui est qui fait quoi, et de plus dans un environnement qui leur était familier, puisque la description que je donne du lycée et de l'internat correspond en fait à la réalité. Alors pour ce premier tome, je me suis inspiré de la personnalité de vrais élèves, bien que leur prénom ait été changé. Au début, d'ailleurs, ce ne devait être qu'un bouquin unique, juste un seul bouquin pour amuser les élèves. Mais il y a eu des recours positifs suffisamment qui m'ont encouragé à développer l'univers d'Exilium. Et aujourd'hui, c'est le troisième tome qui est en cours d'écriture. Alors, il ne va pas sortir tout de suite. Le tome 2 est déjà sorti. Il est divisé en deux parties pour des raisons de taille. Donc, le tome 3 est en cours d'écriture. Mais avant qu'il ne paraisse, il y aura deux autres romans de ma part, sans aucun lien avec l'univers d'Exilium, qui paraîtront. Je vous ferai donc une lecture à partir de la version numérique d'Exilium, afin que je puisse conserver des yeux sur mon grand écran pour pouvoir surveiller le bon fonctionnement de toute cette technique. Vous avez remarqué d'ailleurs que j'ai choisi la vidéo, le noir et blanc, pardon, pour la vidéo. Alors c'est volontaire, hein, c'est pour feutrer davantage ce petit moment lecture. Et pour que vous vous concentriez davantage également sur l'histoire plutôt que ce qu'il y a dans mon dos, mon salon. Mais avant de démarrer la lecture proprement dite, je vais vous lire la quatrième de couverture du livre, histoire de planter le décor. Alors il est aussi temps que je reprenne mes lunettes, parce que sans mes lunettes, je vais avoir quelques soucis pour vous faire une lecture correcte. Quatrième de couverture d'Exilium. Cette semaine-là, une tempête de neige exigea la fermeture du lycée où je travaillais comme pion. Mais le maintien de l'internat permit l'hébergement des élèves bloqués sur place. Par ma proximité avec le lieu de travail, je fus le seul disponible pour assurer les nuitées. La semaine se présentait alors avec un calme insolent, encadrait sept adolescents occupés à compter les flocons au sein d'un établissement vidé de son âme. Sauf que nous n'étions pas seuls. Au début, j'expliquais aux internes effrayés que le vent et le froid étaient responsables des bruits étranges, jusqu'à ce que leur fréquence nous accule à l'évidence. Quelque chose sans lien avec la météo avait infiltré le dortoir. Après mon départ de la Côte d'Azur pour la petite ville de Saint-Amand-Montrond, je pensais avoir trouvé le calme dans la campagne du centre-France, mais j'allais découvrir un énigmatique Berry qu'au XIXe siècle, Chateaubriand décrivit comme une contrée où se passaient des choses étranges. Alors avant de se mettre en condition, je voulais avoir la confirmation que vous continuiez bien à recevoir la vidéo, parce que de mon côté, j'ai parfois quelques décalages. Donc si vous pouviez laisser un petit message simplement pour m'assurer que la vidéo est bien transmise, cela me ferait plaisir. J'attends vos messages. Alors je vois que j'en profite également pour voir les présents. Valérie Pacta, tu es beau Fred. Ben oui, mais tu es belle aussi ma chérie. Tu sais bien que je t'aime. Benjamin, je t'aime aussi. Oh, ils sont tous là, c'est trop. Stéphane, ça me fait plaisir de te revoir. Tout fonctionne parfaitement, me dit Alexis. Donc c'est parfait. Oui Fred, c'est parfait. Je suis très heureux, tout fonctionne parfaitement. Donc je reprends le fil de la lecture. Je bois un petit coup parce que je peux vous promettre que ça assoiffe tout ça. Et maintenant, pour que vous puissiez profiter correctement de la lecture, une petite mise en condition et un changement d'ambiance s'impose. Pour bien profiter de cette lecture à haute voix et vivre l'instant, je vous invite à vous installer confortablement dans un fauteuil ou sur le canapé, seul ou en famille, ou allongez-vous sur votre lit, comme vous voulez, mais soyez à l'aise. Ça y est, c'est bon? Alors éloignez-vous de toute source de distraction. Si vous êtes devant votre ordinateur, laissez votre portable de côté. Les messages, vous les récupérerez après. Ne vous laissez pas kidnapper par la technologie. Les emails et la vaisselle attendront. Vous les retrouverez dans la même position que vous les avez laissés, je peux vous le promettre. C'est vous qui contrôlez votre temps. Et non lui qui vous impose son calendrier. Alors profitez du moment présent, ne faites plus un bruit. Et maintenant, éteignez la lumière. Fermez le rideau si besoin. Et puis fermez les yeux. Lâchez prise. Détendez-vous. Et laissez-vous entraîner par une histoire hors du commun dans laquelle vous aurez peut-être du mal à distinguer la réalité dans laquelle vous vivez d'une réalité parallèle. La tempête de neige joue un rôle important dans cette aventure à huis clos. Je l'ai donc invité à se joindre à nous tout au long de la lecture. Vous entendrez dans quelques instants les premières bourrasques et le vent hurler. Ne soyez pas trop vite inquiet parce que vous entendrez. Ne vous inquiétez pas, je vous prends la main et je contrôle notre voyage jusqu'au bout. Donc n'ayez pas peur. Du moins, pas tout de suite. Allez, c'est parti pour la lecture proprement dite. Avant-propos. Lundi, 23h47. Adossé sur un canapé de cuir blanc, à la seule lueur de l'écran d'un ordinateur portable posé sur une table basse, il me reste à achever la rédaction des quelques paragraphes que vous êtes en train de lire. Puis, comme un point final, je basculerai le capot et me ferai violence pour penser à tout autre chose que ce qui a vampirisé mon énergie la semaine qui vient de s'écouler. Du moins, pour un temps, puisqu'il me sera impossible d'oublier. Juste le temps de recharger la batterie, pas celle du portable, la mienne. L'exceptionnel volume de neige de cet hiver restera bien anecdotique au regard des événements qu'elle a enveloppés. Alors je jette un énième coup d'œil machinal par la fenêtre de mon salon, du 3e étage, comme pour me rassurer, encore et encore. Non, le manteau neigeux n'est plus. Troqué contre ce béton au gris déprimant que les douces lumières de la ville ne réussissent pas à sublimer. Demain, ça sera reparti pour une nouvelle semaine de boulot. Encore une. Et je devrais faire semblant. Faire comme si rien ne s'était passé. Rien n'avait changé. Alors que tout est si différent aujourd'hui. Si étrange, si angoissant. Ce que vous êtes, excusez-moi, je vérifiais que la vidéo était bien transmise. Pardonnez cette petite digression. Je ne parviens d'ailleurs pas à déterminer ce qui m'effraie le plus. Est-ce avoir pris conscience d'une réalité cachée? Ou alors la frustration de ne pouvoir la partager? Les événements relatés dans ce livre ont bouleversé en profondeur et de façon définitive ma conception de l'ordre des choses. Par le truchement de lois naturelles encore inexplorées, dame nature, majestueuse et humble instructrice, a pris soin de dissoudre cette fragile ignorance que je portais comme un vêtement trop collant. Mon intelligence du monde restait ligotée à cette mauvaise mais si terrienne habitude de tout mathématiser, de ranger avec minutie chaque tranche de la connaissance et de l'esprit humain dans des boîtes avec une étiquette. Une intelligence prisonnière d'une bulle imperméable à la fluidité du temps et des mouvements. Comme si la pensée équilibrée relevait de logiques binaires, sans nuance. Mais cette conception nombriliste et réductrice de ce monde qui nous entoure et nous façonne, il aura fallu moins d'une semaine pour la balayer. Ce que vous êtes sur le point de lire ne manquera pas de vous surprendre, de vous troubler, voire de vous effrayer, comme ce fut mon cas. Les ignorants et les obstinés vont railler, mais alors ? Il existe pourtant bien une réalité discrète et subtile à laquelle il est impossible de se soustraire. Parce qu'il est utopique de se dérober devant les lois qui régissent l'univers dont nous ne sommes que de simples locataires. Cette réalité sort des schémas de pensée traditionnels et réducteurs sur la structure du monde. J'irais même jusqu'à avancer l'idée d'une existence, de l'existence d'autorités parallèles qui, si elles ne nous gouvernent pas de façon directe, exercent malgré tout une profonde influence sur notre environnement immédiat. Au moment où je consigne cette introduction au témoignage qui va suivre, j'affirme être toujours en pleine possession de mes facultés intellectuelles, psychologiques, psychiques et mentales. Enfin, du moins je crois. Ça y est, ma fée commence à me souffler sa puissance. Il est temps que je lâche prise et rejoigne le monde des rêves. Monde des rêves que j'ai la faiblesse de croire inoffensif. Les faits présentés tout au long de ce témoignage sont rapportés dans l'ordre chronologique, sauf rares indications contraires. Ceux dont je n'ai toutefois pu être le témoin direct pour des raisons évidentes de lieu et de temps sont rapportés après collecte et synthèse des éléments qui ont permis leur reconstitution. Et afin de fluidifier le récit, les dialogues ont été préférés à la narration. Six jours plus tôt, mardi matin, premier jour. Mais puisque je vous dis que je suis en plein rêve, j'ai même fait le test de réalité. Tout ici n'est qu'illusion, une simple construction de mon esprit, rien n'est réel. Et surtout, j'espère ne pas me réveiller tout de suite pour bien profiter du décor. Je ne comprenais pas pourquoi ces visiteurs, apparus sans prévenir dans la maison de mon adolescence, ne saisissaient pas ce que je leur expliquais. Ils croisaient avec légèreté mon regard, d'un air quelconque, comme s'ils ne m'entendaient pas. Ou au contraire, peut-être ne souhaitaient-ils pas rebondir sur les banalités que j'exprimais. Peu importe. Je savais que l'instant ne durerait pas. Alors j'avais intérêt à explorer sans tarder mon nouvel espace virtuel, avant qu'il ne m'échappe pour toujours. Et merde! Une bonne baffe sur le radio-réveil. 6h15. Quel moment douloureux et gorgé de contrariété que celui où, quand on est bien saucissonné dans une douillette couverture polaire, c'est à une tonitruante alarme qu'on doit son extraction du monde des rêves, pour basculer vers une réalité moins décousue, la vraie vie, le live. Avant d'envisager la sortie de mon cocon 100% polyester, les yeux clos, une joue marquée par la cicatrice de l'oreiller, je restais sous l'emprise d'un rêve lucide, dont je m'exerçais à retracer la trame. J'étais stupéfait d'ailleurs par l'efficacité de ce test de réalité que j'avais réussi à mettre en œuvre en plein sommeil pour me permettre de distinguer l'illusion du réel. Des études sur le sommeil affirment d'ailleurs que seule une minorité de personnes parviennent à contrôler l'intégralité de leurs songes. Et ces rêves sont classifiés de lucides quand les dormeurs ont conscience de rêver, même si le réveil peut être déclenché à tout instant par le rêveur lui-même ou par un facteur extérieur. En l'occurrence, là c'était mon radio réveil. Ces rêves lucides sollicitent à ce point les cinq sens physiques, le libre arbitre et la faculté de raisonnement, jusqu'à l'interprétation même du rêve, au sein du rêve, qu'il est quasi impossible d'établir le distinguo entre les deux mondes. Dans de telles conditions, effectuer un test de réalité constitue l'unique moyen pour le rêveur de déterminer de quel côté de la barrière il évolue. J'avais donc choisi la méthode exposée au détour d'un forum sur Internet. Fermer la bouche, se boucher le nez, puis tenter d'inspirer. Si on y arrive, alors c'est qu'on est dans un rêve, tout n'est qu'illusion. Essayez, vous verrez. Un procédé dont l'aspect surprenant ne réside pas tant dans son efficacité que surtout de s'en souvenir une fois endormi et de l'exploiter en toute pleine conscience dans un contexte où en fait on est censé n'être contrôlé que par le subconscient. Revers de la médaille, cette lucidité au sein d'un rêve, cette lucidité de pouvoir contrôler ses rêves désinhibe les aspirations les moins nobles et séduit le côté sombre de l'esprit humain avec sa part de consentement au mal. Il y a alors tentation de créer des situations jugées répréhensibles par les conventions, mais que le cerveau interprétera comme une parfaite réalité, pourtant sans prolongement aucun ni connu avec la réalité où gravitent les taxes et les crottes de chiens sur les trottoirs. Le fantasme du crime parfait, libéré de toute contrainte morale, fauté sans en subir les conséquences ni crouler sous le poids du remords, de la culpabilité ou de la honte. Bref, au réveil, restez aussi blanc que la neige annoncée par la météo. Et si ces rêves lucides cachaient une porte avec le monde réel ? Quand bien même subtil, imperceptible à nos sens humains réducteurs. Mais comment le savoir ? Certains ont proposé l'existence d'un continuum entre la réalité et le rêve pour expliquer un tel phénomène. Enfin, tout ça, c'est bien compliqué. Mais si le 7e art a souvent développé ce thème juteux des rêves lucides avec une couche supplémentaire d'imaginaire pour captiver le chaland, les rêveurs lucides appartiennent bien au monde réel. Et je peux l'attester pour être l'un d'eux. Allez, une seconde claque sur le réveil, au moins je l'entendrai plus. Bon, et si je pensais à m'extraire du lit ? Ah, je vais en profiter pour jeter un œil sur mes messages Facebook. Est-ce que tout le monde continue à recevoir la vidéo ? Parce que j'ai également quelques décalages là, ici. Rassurez-moi, vous recevez toujours la vidéo. Sinon la journée ne pourra pas continuer. J'attends. C'est parfait, la vidéo continue. Donc les décalages viennent de chez moi. Je vous remercie. Je continue, je vais pouvoir me réveiller parce que je vous promets que la journée sera longue. Excusez-moi. 6h25. Le démarrage de mes journées de boulot était immuable. Se lever au radar, sortir l'ordinateur de veille, passer au sanitaire, se décrasser, prendre un petit déjeuner sur le pouce et lire en parallèle les nouveaux courriels et les flux d'actualité sur Internet. Je réservais la dernière ligne droite à la substitution du costume d'Alan par une tenue un peu plus adaptée à la vie en société. Une heure n'était pas trop, quand jusqu'au dernier tour de clé, l'oreiller semble solliciter un ultime câlin. 6h55, ce matin-là, j'étais mal réveillé. Oh, pas mal luné, hein, juste mal réveillé. Un verre du jus d'orange dans une main et la souris de l'ordinateur enserrée dans l'autre. J'étais scotché devant mon écran à attendre le téléchargement de 5 lignes de texte encadrées par une demi-douzaine de publicités géantes. Encore du spam. Puis c'est un appel téléphonique de ma chef de service qui allait donner le top départ d'une suite d'événements qui marquerait à jamais le cours de mon existence. Bonjour Frédéric, c'est votre CPE, désolé de vous appeler si tôt, comment allez-vous ce matin ? Son débit rapide et son humeur toujours égale étaient un vrai bonheur et encourageaient à la rondeur et au velours dans le ton de la conversation. « Ah, bonjour madame la chef. Oui, oh, ça ne va pas trop mal après un week-end de 3 jours, mais bon, j'ai encore un œil qui louche sur l'oreiller et aussi un peu la tête dans le cul, pardon l'expression, alors donnez-moi un petit peu de temps pour réintégrer le monde des vivants. Oui, eh bien, réintégrez bien parce que vous allez en avoir besoin. » D'ordinaire, j'étais capable de suivre une conversation téléphonique tout en consultant mes courriels, plus d'ailleurs par incorrection que par réel dans d'ubiquité. Mais cette fois-ci, je décidai de lâcher la souris pour écouter avec un peu plus d'attention. Je pris donc soin de m'asseoir sur mon fidèle canapé face à tout mon bazar informatique. Et vu l'heure de l'appel, je subodorai la bonne grosse mauvaise nouvelle à vous pourrir la journée. Je suppose qu'un coup de fil si tôt, ça ne doit pas sentir très bon, non ? Mais non, soyez pas désespéré, Frédéric. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Même si, dans un souci d'équilibre, Elle est aussi accompagnée d'une petite mauvaise, mais qui va impacter très légèrement votre semaine de travail au lycée. Mais on ne va pas chipoter sur les détails. Bon. Allez, il est maintenant temps que je me présente. Je suis donc assistant d'éducation, abrégé AED, au lycée Jean Moulin de Saint-Amand-Montrond, dans le département français du Cher, au sud du département plus précisément. Un établissement qui regroupe dans la même enceinte une section générale et technologique et une professionnelle. J'ai emménagé dans la région du Bois Chaud Sud, après avoir quitté le Var, où j'ai eu le privilège de bâtir mon cursus en communication visuelle, en publicité ou webmastering. Et ainsi que dans le commercial, plus ou moins comme tout le monde de nos jours d'ailleurs. L'eau turquoise, les palmiers, le ciel bleu azur, 300 jours par an. Ce décor que certains paient très cher pour le retrouver chaque été, et dans lequel moi je baignais chaque jour, fut mien pendant près de 20 ans. La rupture fut donc plutôt brutale lors de mon arrivée à Saint-Amand-Moron. Saint-Amand est pourtant une ville rurale spacieuse et à dimension humaine. Hein. Une ville d'ailleurs de faible densité, et surtout où on se sent en sécurité. Mais la vie y est tranquille, réellement. Les quelques 11 000 habitants sont en tout cas moins stressés que sur la Côte d'Azur, où la superficialité bénéficie souvent de plus d'opportunités pour s'exprimer. Et la plage n'y est pas pour rien. Le contexte rural explique aussi pourquoi la population saint-amandoise, par son calme et sa simplicité, dégage beaucoup d'authenticité. Même si l'énergie mobilisée à l'ouverture d'esprit est quelquefois plus émoussée que celle manifestée dans les métropoles. Et la méfiance vis-à-vis de l'étranger reste une autre particularité de la région. Et les difficultés d'intégration peuvent être réelles pour qui n'est pas natif du coin. Le jugement à la porte-pièce est de rigueur parfois, et l'ostracisme peut être aussi facile. Il faut alors bétonner son moral et peupler ses soirées d'activités parallèles pour décompresser et surmonter cette situation parfois douloureuse, mais qui est toujours passagère. Car une fois la peur de l'étranger diluée par le temps, les sourires affluent et on récolte de belles amitiés, pour autant qu'on s'évertue à les entretenir. Malgré tout le potentiel humain que l'intitulé de la fonction d'assistant d'éducation pourrait le laisser supposer, une bonne part du travail se cantonne à la paperasserie. Le budget photocopie alloué à l'établissement pourrait en témoigner. Ma fibre créatrice est donc fort peu sollicitée. Même si, de ci de là, j'essaie parfois d'insérer un petit fond de fraîcheur dans la mise en page de certains documents bureautiques un peu austères. Mais sans jamais chercher à les transformer en œuvres d'art, hein, pour ne pas contrarier les vieilles habitudes ou bousculer ceux qu'une simple virgule supplémentaire parviendrait à déstabiliser dans l'exercice de leur routine professionnelle. C'est une fonction parfois ambiguë que celle d'AED. Être à la fois proche des élèves, une proximité qui est d'ailleurs appuyée par le tutoiement, puis fusionner des rôles de bourreau, d'aide, de censeur et de référent. Dans le même packaging, on sert la carotte et le bâton. D'une façon générale, la maturité des AED, bon, kilométrage certain, prend le relais là où les plus jeunes échouent en raison de leur manque d'expérience ou de sérieux dans leur conception de l'autorité. Mais sérieusement, qui pourra les blâmer ? 20 ans révolus et le baccalauréat sont les seules conditions requises pour monter sur un podium où il faut de façon récurrente faire office de prof, d'infirmière, de gendarme et de grand frère. Avec malgré tout en retour cette satisfaction d'être un composant utile au fonctionnement d'un grand tout. À ce titre, je crois pouvoir affirmer sans me tromper que les AED, peu importe leurs faiblesses et les coups de griffe qu'ils s'échangent, sont tous méritants. Chacun contribue à sa façon à l'homogénéité de la vie scolaire. En contrepartie, l'AED est témoin et acteur d'un vaste brassage dans les relations humaines, ce qui lui ouvre toutes grandes les portes de l'enrichissement personnel, en plein cœur du bureau de la vie scolaire, carrefour de l'information et parfois aussi bureau des pleurs. Plus important encore, le travail en vie scolaire aide à comprendre que les lycéens finalement ne sont pas tous des monstres acnéiques, insolents, ingrats, greffés en permanence sur leur téléphone portable. Tout comme d'ailleurs les professeurs ne sont pas tous mécaniquement des inquisiteurs psychorigides, obsédés de la feuille à petits carreaux parce que les grands carreaux ça fait pas pareil. Les ingrats et les psychorigides, bien sûr, il y en a, ça existe, mais leur présence marginale vient confirmer la suprématie de la vertu. En fait, Force est de constater qu'interagir avec tous les intervenants de cette fourmilière reste un plaisir en permanence renouvelé malgré son caractère énergivore. Et cela me manquera. Cela me manquera le jour où mon contrat prendra fin. Du moins pendant un temps, car on n'est pas AED à vie. Une carrière d'AED n'existe pas. Il ne s'agit que d'un statut provisoire sans évolution. Un job alimentaire, comme on dit, même si les textes de loi qui le définissent sont ronflants à l'excès. Rien n'est plus juste que parler de l'assistant d'éducation comme d'un pion, malgré toute l'obstination des bureaucrates adeptes de la novlangue qui s'acharnent à construire des briques avec du vent. Par son engagement dans cette belle œuvre temporaire, l'AED entame malgré lui un processus d'obsolescence programmée. Jusqu'au jour où un chapelet de superlatifs viendra rappeler l'excellence, avérée ou non, de son travail, avec une bande dessinée, des chocolats comme émouvant cadeau d'adieu. Il en est ainsi de ces institutions, colonnes de la société où l'ardeur ne paie pas. Mais le monde parfait n'existe pas en stock, alors pourquoi s'obstiner à passer commande? Ah bah tiens, voilà un bon sujet de philosophie. Qu'est-ce que la perfection? Moi, je reviens à la CPE, la conseillère principale d'éducation. La CPE m'avait accueilli avec une rare chaleur humaine lors de mon entretien d'embauche. Un soutien qui fut le bienvenu pour adoucir ma transition var chère. Et elle n'a jamais fait défaut depuis. C'était une femme d'une grande intelligence de cœur. À l'opposé de certains chefs de service qui n'existent par la pression qu'ils placent sur les épaules de leurs subalternes, elle attendait des AED sous sa responsabilité de l'ouvrage et du discernement. Dit autrement, qu'il soit bosseur et pas couillon. Et elle n'était pas la dernière pour la rigolade. Elle savait faire passer les messages avec douceur et humour, avec ce souci soutenu d'éviter les heurts et les blessures inutiles. Elle préférait suggérer, plutôt qu'ordonner. Inspirer, et non exiger. Par défaut, elle faisait confiance à la perspicacité, au bon sens et au caractère raisonnable et adulte, ou présumé comme tel, à qui elle s'adressait. Un mode de fonctionnement réfléchi et humain, mais parfois bien incompris par la hiérarchie qui était bien plus habituée à commander par la règle. Ce rapport subtil et intelligent avec les individus révélait à court terme leur motivation par ailleurs. Aussi, quand les bouffons et les tire-au-flanc s'illustraient, la CPE mettait en veille sa douceur pour rappeler de façon très énergique, voire carillonnante, leur responsabilité professionnelle. Et malgré une grande proximité avec ses collaborateurs de la vie scolaire, service que la CPE d'ailleurs défendait bec et ongles pour avoir été elle-même AED, le vouvoiement était de rigueur entre les AED et la CPE, afin d'éviter les dérapages verbaux. Car, comme aimait le rappeler l'infirmière, il est toujours plus inconfortable de sortir un « vous me faites chier » qu'un « tu me fais chier ». Par son côté matinal, l'appel de la CPE engendra chez moi un petit stress. Il ne pouvait certainement pas annoncer du bon pour la journée. Ma chef de service ne téléphonait jamais de si bonne heure au domicile des AED, sauf mes chances d'urgence. Enfin non, je crois que ça n'est jamais arrivé en fait. J'activais le haut-parleur du smartphone pour libérer mes mouvements, et je me doutais plus ou moins que la nouvelle aurait un lien avec l'épisode neigeux, dont on parlait déjà vendredi avec les élèves et puis les collègues. Eh bien écoutez, chef, en général on demande à entendre la mauvaise nouvelle en premier. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez jeté un œil dehors? Bien sûr que j'avais jeté un œil dehors, ne serait-ce que pour aérer la chambre. Mais je vous embêta. Toujours pas habillé, j'éteignis le salon pour dissuader les regards indiscrets extérieurs avant de glisser sur son rail le rideau opaque de la porte-fenêtre du salon. Oh bon sang! Je ne pus cacher mon nouvel enthousiasme devant la vision de l'épais manteau neigeux bleuni qui s'offrait à moi, alors que le jour n'était pas encore levé, et tous ces flocons qui tombaient. Mais c'est génial, toute cette neige, bon sang! Ça fait longtemps que je n'ai pas connu un hiver comme ça. Aux infos de ce matin, ils ont bien parlé de cette alerte, mais je pensais qu'on était sur la fin. C'est justement pour ça que je vous appelle, Frédéric, parce qu'on n'est pas du tout sur la fin. Dites, faites-moi plaisir. Le lycée est fermé, je suis en vacances toute la semaine. Je conservais l'espoir minime de prolonger mon week-end. Oh, cher Frédéric, je crains que votre perception optimiste de la situation ne vous conduise à une grosse déception. Mais vous avez à moitié raison pour la fermeture. Enfin, je vous explique. Vous savez qu'à la suite de l'alerte neige de vendredi dernier, les élèves ont été avertis que sur ordre du rectorat, le lycée serait fermé le lundi suivant. Donc hier, puisqu'on est mardi. Malheureusement, oui, fermé pendant mon jour de repos. Enfin ça, c'est pas de chance pour moi. Mais vous allez me laisser terminer. Oh, quel bavard celui-là. Donc, malheureusement, la neige s'installe plus longtemps que prévu et les routes sont loin d'être dégagées, enfin au moins certainement. Car la situation est différente d'une commune à l'autre, paraît-il. Il y a des trous dans les nuages. Je suis d'ailleurs moi-même bloqué. Pour des raisons évidentes de sécurité, le proviseur a donc décidé de fermer le lycée toute la semaine. Même si d'ici vendredi, Saint-Amand devrait quand même être accessible. Mais dans le doute, les cours ne reprendront que lundi prochain. L'alerte neige va être levée d'ici là. On n'est quand même pas en Sibérie. Est-ce que vous avez des questions ? Pouf ! Eh bien, plutôt que me se rasseoir, je file les 100 pas dans le salon pour réduire ma nervosité face aux nouvelles sur le point d'être annoncées. Oui, justement, on en parlait vendredi de cette alerte avec les collègues. On se demandait dans quelle mesure la fermeture du lycée serait suffisante. Car ça tombait à gros flocons dans l'Allier. Donc vous m'appelez bien pour me dire que je peux rester chez moi toute la semaine ? Oui, la bonne nouvelle est que vous pouvez rester chez vous en journée puisque le lycée est fermé. Mais la mauvaise, et c'est là que ça va coincer un peu pour vous, c'est qu'on rouvre l'internat. Je fus stoppé dans mes 100 pas. Net. Comment ça ? Des internes sont toujours à Saint-Amand ? Ah, plus exactement, on ferme l'internat des filles, toute la semaine. Ça, c'est acquis. Mais en revanche, on doit rouvrir l'internat pour certains garçons. Oh, je suppose que ce sont des paulistes. Vendredi, ceux qui normalement repartent en train avaient peur d'être bloqués en plein trajet. Certains ont parlé de dormir chez des copains à Saint-Amand, mais je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Eh bien, j'ai passé la journée d'hier à téléphoner aux familles. Tous les internes ne sont pas retournés chez eux. Certains dormaient chez des camarades. Oui, et des polices auraient obtenu par le pôle une chambre provisoire au foyer des jeunes travailleurs. Les polices étaient ainsi appelées en raison de leur engagement au Pôle Espoir de Saint-Amand, une structure sportive chapeautée par la Fédération Française de Cyclisme. Le pôle recevait chaque année de jeunes cyclistes d'un bon niveau pour leur formation et l'entraînement vers un niveau supérieur. Certains élèves venaient d'ailleurs de loin pour en bénéficier. Et la plupart, si ce n'est tous, étaient par la force des choses internes au lycée durant leur scolarité. Ils suivaient un emploi du temps chargé et épuisant, car après les cours, s'ajoutait un entraînement intensif au vélodrome, près du lycée. Et le week-end était quelquefois synonyme de compétition. Beaucoup peinaient à tenir le rythme, et l'abandon n'était pas rare. Donc j'aurai quand même la nuit de jeudi à surveiller. Oh, c'est pas méchant non plus, mais vous me parliez aussi d'une petite mauvaise nouvelle. C'est laquelle ? Ben, la mauvaise, c'est qu'il n'y a strictement aucun AED de disponible pour toute la semaine, à part vous, Frédéric ! Dépité, je posais la main droite sur le front et fermais les yeux. J'eus envie de me remettre au lit. En fait, soit vos collègues habitent trop loin, sont enneigés, ne peuvent pas pénétrer le bizarre Saint-Amandois, soit ils sont partis en week-end et ne peuvent pas revenir. Enfin bref, ils ont tous une moindre raison à cause de la neige. Je commençais à mieux cerner le cœur du problème et je n'aimais pas ça. Pas d'élèves, sauf des internes, ça encore. Ça allait, mais aucun AED sauf moi. Bon sang, face à la situation... J'esquissais par la pensée et l'organisation de la semaine en faisant mine de ne pas être trop accablé par la situation professionnelle qui s'annonçait. Si je mets de côté la neige qui contrarie un peu les déplacements et le fait que venant du Var, je ne suis pas très équipé en vêtements chauds, ce n'est pas une nouvelle trop accablante d'avoir à surveiller une poignée d'internes quand même. Puis la désolation m'envahit. Je rejetai un œil par la fenêtre, dans l'espoir de me convaincre que la neige n'était pas si abondante que ça et ne manquerait pas de fondre dans la journée. Mais rien que l'épaisseur du manteau sur la rambarde du balcon me ramena à la réalité. Je suis donc vraiment le seul AED pour toute la journée, c'est-à-dire que je dois me farcir toutes les nuits à l'internat ? En raison d'un simple arbitrage géographique, toutes mes soirées étaient foutues pour la semaine. La CPE tenta d'étouffer mon petit sentiment d'inquiétude par des propos apaisants. Mais je vous rassure, Frédéric, oui, seul pour tout gérer, mais la semaine sera ultra calme, il n'y aura que 3 nuits. Ce soir, donc mardi, mercredi et jeudi. Vous savez que même avec un seul élève, la loi impose la présence d'un adulte, on n'a pas le choix. Il faudra donc que vous fassiez ce matin en visco le point sur le nombre d'internes qui seront hébergés. Les familles ont été averties. Les élèves qui passeront la semaine à l'internat doivent sans faute se présenter avant midi aujourd'hui en vie scolaire. Mais je doute fort qu'on atteigne la dizaine de toute façon. Je continue à fixer l'étendue blanche au-delà de mon balcon. Bon, je pense que je peux déjà aller au bureau à pied, c'est la rançon à payer quand on habite à côté. Ça continue à tomber, il y a un peu de vent, mais bon, pour l'instant, c'est pas la grosse tempête. Mais comment ça va se passer sur place? Il y aura quelqu'un? Il y aura qui pour accueillir, en fait, les internes? Enfin, à part moi, tout à l'heure. Ben, ceux qui ont un logement de fonction sur place, comme le proviseur et puis le cuisinier également. On mourra donc peut-être deux fois, mais enfin, pas de faim, en tout cas. Je crois aussi que l'assistante sociale a dormi sur place, car elle devait monter des dossiers de fonds sociaux ou et voulait avoir le maximum d'éléments à portée de main. Elle a squatté l'appartement de fonction libre le temps du week-end. Vous aurez certainement des occasions de vous croiser. Tout en écoutant ma chef de service et sa voix qui commençait à me vriller les oreilles, je me persuadais que seuls seraient présents les internes les plus calmes, les plus gentils, les plus travailleurs. En bref, les plus dociles avec lesquels la compagnie de bouquins et d'une tablette tactile deviendrait la meilleure arme contre l'ennui. Je jetai un rapide coup d'œil sur l'horloge géante fixée sur le mur adjacent à mon bureau, face au canapé avant de me rasseoir, dans une volonté de clore la conversation. Mais il restait un point à élucider. Bien, donc je dois surveiller les trois nuits. Bon, ça c'est enregistré, mais comment ça va se passer en journée pour les internes si le lycée est fermé? Alors on a réfléchi avec le proviseur sur le moyen d'organiser ça au mieux. D'un commun accord, on a décidé que dans la mesure où vous habitez juste à côté, après le petit-déj, vous retournerez chez vous pour ne revenir qu'en fin d'après-midi, pour encadrer les soirées et surveiller les nuits. Les internes auront quartier libre. Les dortoirs seront ouverts en journée, ainsi que le foyer. Mais le proviseur vous expliquera cela. Allez le voir dès que vous arriverez. Et on est supposé accueillir qui à l'internat? Accueillir qui? Au moins deux poulistes, ceux pris en charge par le pôle. En ce qui concerne ceux qui ont été hébergés chez des camarades, peut-être certains n'auront pas envie de rester toute la semaine à l'internat. C'est donc encore flou, mais tout va se dégager d'ici ce midi. Bon, ben ça devrait pouvoir le faire. Ça serait un peu lourd, trois nuits sans mon lit. Mais bon, c'est pas ingérable non plus. Bon, sinon, la bonne nouvelle, elle est où là-dedans? Eh bien, j'y venais, Frédéric. Comme les internes seront très peu nombreux, je vous laisse quartier libre pour les gérer comme vous l'entendez. Ce qui implique plus de souplesse dans la gestion des téléphones portables, leur limite de passage aux douches ou les soirées télé. Mais restez quand même dans des bandes raisonnables, hein, pour éviter les débordements. Certains pourraient en profiter et la situation pourrait vite devenir ingérable. Ce n'était pas une vraie super nouvelle, mais bon, je l'acceptais comme telle. Eh bien, j'en connais qui vont être heureux. Bon, puis en même temps, c'est vrai que les petits comités sont aussi des occasions pour certains élèves de s'exprimer plus librement sur leurs bobos. Bon, allez, sur ce, je finis de me préparer, je file au lycée, j'aviserai sur place pour les détails. Le proviseur vous attend. Ah, j'ai failli oublier une autre bonne nouvelle, une vraie bonne celle-ci. Je dressais les oreilles pour être certain de bien appréhender le petit bonheur qui m'arrivait enfin. Pour vous remercier de votre pleine disponibilité, le proviseur a lui-même proposé de vous offrir tous les repas de la semaine, midi y compris si vous décidiez de rester. Est-ce que ça vous va, Frédéric? Eh bien voilà, vous auriez dû commencer par là, chef. Merci, Frédéric. Même si vous n'avez pas trop eu le choix, je l'admets. Allez, on se recontacte en fin de matinée pour dresser un état de la situation. Plus un bruit. Silence absolu. La ville était comme figée, prisonnière d'une meringue molle géante, suspendue dans le temps par un manteau blanc à l'insolente pureté. L'homme est vraiment fragile et misérable. Il tire fierté de ses prouesses technologiques, mais reste impuissant dès que le ciel, sans trompette ni éclat, ouvre ses écluses pour transformer le plancher des vaches en un écrin garni de délicats cristaux. Il n'y a que les chaînes d'information en continu qui redécouvrent la neige avec une stupeur niaise chaque année, promptes à interviewer le premier insatisfait qui, derrière son volant, ne manque pas de rendre la préfecture responsable des conditions météorologiques. Mais pourquoi est-ce que les râleurs n'hibernent-ils donc jamais? Habiter à moins d'un kilomètre à vol des tourneaux de son lieu de travail représente un réel avantage si on veut bien faire l'impasse sur la potentielle disponibilité professionnelle accrue qui en découle. Et ce mardi matin, je fus le premier à marquer de mes pas le sol immaculé qui partait de chez moi jusqu'au portail principal du lycée. Comme un pionnier qui balisait une contrée vierge pour guider tous les colons qui prendraient le pas. Et j'en étais pas peu fier. Avec sa palette de couleurs cendrées, renforcée par une nuit pas tout à fait terminée, le ciel donnait dans le lugubre. Mais il parvenait à aimanter mon regard par sa beauté ténébreuse. Au loin, il fusionnait avec la terre dans un gris si profond qu'il rendait impossible la localisation de la ligne d'horizon. Les circonstances m'avaient contraint à opter pour une démarche de cigogne. J'écrasais la poudreuse à grandes enjambées plutôt que la jouer chasse-neige, à dessein d'éviter de noyer des chaussures résolument peu adaptées à la situation. Puis, pour m'occuper l'esprit, faute de lecteur MP3, je m'amuselais à déceler et interpréter à ma manière les quelques ombres furtives que de simples congères avaient créées la nuit précédente au plus fort des rafales. Mais si le vent avait baissé en intensité, du moins pour aujourd'hui, l'hiver n'était pas fini. Et surtout, une semaine inconfortable en solitaire débutait. Voilà les jeunes, on est arrivé au bout de la lecture pour aujourd'hui. Jeunes et moins jeunes, bien entendu. Demain, notre voyage continuera. On retrouvera Frédéric au lycée où il accueillera les internes. Et nous ferons connaissance avec Céloustic. Je bois un coup et ensuite je jette un coup d'œil au message que vous auriez pu laisser. Alors, je repars depuis le début. Alors, Alexis, je lui dis coucou. Mon frère Fabien, je lui dis coucou. Valérie, que j'aime toujours autant depuis tout à l'heure, je lui redis un grand coucou, une grosse bise. Stéphane Bergerat. Alors, Stéphane Bergerat, j'aimerais vous le présenter en 2 secondes. C'est un des élèves que je surveillais, entre guillemets, à l'époque où j'étais surveillant, quand j'avais une 20aine et quelques années. Donc, on se connaît depuis 25 ans, grosso modo. Donc, Stéphane, ça me fait très plaisir qu'il soit là. Alexis, un fan d'Exilium. Sophie, ma belle-sœur, coucou ma puce. Cécile, je ne te connais pas, mais je suis très content que tu sois venu pour ce petit Facebook Live. Benjamin, je refais un bisou, un deuxième. Valérie, je ne l'ai vu. Alexis, c'est fait. Cécile, Elodie, merci d'être passée. Je te fais un grand coucou également. Eh bien voilà, je suis arrivé au bout. Allez, la lecture est terminée pour aujourd'hui, je vais vous libérer, on est parti un petit peu, on a dépassé les 19h, parce que il y avait les paroles d'introduction. Voilà, vous pouvez laisser autant de messages que vous voulez, si vous souhaitez que j'en lise un peu plus chaque soir, ou au contraire, si vous souhaitez que j'en lise un peu moins. Quoi qu'il en soit, je vous dis à demain, 18h30. D'ici là, soyez sages, protégez-vous, protégez les autres, en restant confiné autant que faire se peut. Je vous embrasse, à demain, et merci pour votre fidélité.